Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles, prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audensia. Audensia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec deux nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audensia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audensia, rendez-vous sur audensia.com. Épisode 137 avec Marie Delberg. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui sur le podcast Marie Delberg. Aussi connue sous le nom Marie Naturopathe sur Instagram, Marie aide des centaines de milliers de femmes à reconnecter à leur corps et à se sentir mieux dans leur tête en apaisant leur relation à l'alimentation. Ses points de focus sont l'alimentation émotionnelle et les troubles hormonaux, des sujets qu'elle aborde dans l'épisode. Marie partage aussi les trois questions qu'elle invite ses clientes à se poser pour reconnecter avec leur instinct. L'importance de vivre une alimentation inconditionnelle, qu'est-ce qu'une assiette saine, ses conseils pour perdre du poids. D'ailleurs, j'ai adoré cette partie parce que vous verrez que Marie met en évidence le chemin intérieur. Mais aussi la place du mouvement dans un mode de vie sain, et elle nous emmène dans une journée type dans sa vie du matin au soir. Il y a bien plus à découvrir sur l'épisode, vous vous en doutez, et j'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez. Marie est une femme lumineuse, authentique, qui ne vous proposera pas de meal plan, mais qui vous aidera à vivre une vie pleinement épanouie. Son prochain programme s'appelle Health is the New Sexy, et il commence le 1er mai si vous souhaitez encore vous inscrire. Enfin, les liens vers ses retraites et ses consultations privées sont tous disponibles dans la fenêtre de l'épisode. Allez, je vous laisse sans plus tarder avec l'épisode et je vous retrouve à la fin. Très bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Marie.
Merci Anouk, merci pour l'invitation.
Je suis ravie de te recevoir. Alors, pour celles qui ne te connaissent pas, donc toi tu es naturopathe, tu es aussi coach bien-être et tu as un Instagram sur lequel tu es assez active, tu produis du très beau contenu, du contenu inspirant avec aussi beaucoup de conseils pour aider les femmes à être en meilleure santé. Tu les accompagnes notamment à trouver une meilleure santé émotionnelle et hormonale. Tu vas nous en parler plus pendant l'interview. Et tu as aussi une espèce de vibe genre hyper solaire, hyper souriante. Alors, est-ce que tu as toujours été comme ça, ou est-ce qu'il y a eu un changement de vie qui a fait que tu t'es vraiment, toi, intéressée à ta santé, à ton énergie? Est-ce que tu peux nous raconter plus de ton histoire?
Alors, je pense que j'ai toujours été très positive, très optimiste, très sportive. J'adore la nature, donc je pense que c'est des choses finalement qui te donnent cette aura solaire, on va dire. C'est quelque chose qui revient beaucoup, on me le dit souvent, t'es solaire. Mais je pense que c'est vraiment depuis ces dernières années, ces 3-4 dernières années, que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait des choix qui s'alignent de plus en plus avec ce que je veux, avec la vie que j'ai toujours voulu. Et donc évidemment, disons que ma personnalité aussi se développe autour de ça. Il y a quelques années, je vivais à Paris. Je suis tombée malade. En tout cas, mon corps répondait de manière très bizarre. J'avais l'impression vraiment de perdre le contrôle. Et à ce moment-là, j'étais même un peu en dépression. Enfin, j'ai du mal à dire le mot dépression, mais j'étais en dépression, clairement. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire des choix qui s'alignent avec ce que je veux vraiment. Je suis partie vivre en Espagne aussi, ça a beaucoup changé les choses. J'ai pris confiance en moi, tout ça. Et aujourd'hui, je vais pas dire que je suis heureuse à 100% parce que c'est compliqué de le dire, mais en tout cas, je suis épanouie à fond. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. J'adore mes clientes, j'adore ma vie, donc ça, j'essaie en tout cas de transmettre à fond mon énergie dès que je le peux, sur Instagram, durant mes consultations, durant mes retraites, voilà.
Sur ton profil Instagram, il y a marqué « alimentation émotionnelle ». Ça m'a beaucoup plu parce que moi, le monde des émotions, c'est quelque chose que j'adore creuser là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire plus, toi, qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle ?
Alors, l'alimentation émotionnelle, c'est un sujet que j'adore parce que dans notre société aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qu'on a complètement diabolisé. Comme si aujourd'hui, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les mangeurs normaux et les mangeurs émotionnels. Alors que si on remet les choses dans leur contexte, aujourd'hui, en tout cas en Occident, je pense, on est tous des mangeurs émotionnels. On l'est tous. On a tous été éduqués avec cette alimentation comme ressource, comme récompense. Bon, je sais pas toi si c'est ton cas, mais moi par exemple, mes parents, quand j'avais une bonne note, j'avais le droit à un petit bonbon. Quand je passais une mauvaise journée, on allait chercher une glace. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Et dans notre éducation, à l'école ou avec nos familles, on l'a. Donc aujourd'hui, on est tous devenus des mangeurs émotionnels. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu passes une mauvaise journée? T'es plus attiré par du chocolat, t'es plus attiré par des choses un peu caloriques. Mais aussi, quand tu as des moments de joie, t'as envie de célébrer avec tes amis. Donc, finalement, l'alimentation, elle est un peu toujours là, que ce soit une émotion négative, une émotion positive. Maintenant, le terme vraiment alimentation émotionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce terme-là parce qu'elles ont l'impression d'avoir une vraie sensibilité à l'alimentation. C'est-à-dire, potentiellement, elles ont l'impression de manger leurs émotions. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Donc, c'est quoi manger ses émotions? C'est-à-dire qu'on, finalement, on compense la tristesse, la culpabilité, la colère en mangeant de manière déraisonnée, on va dire. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressée à ces personnes-là. J'ai moi-même souffert de troubles du comportement alimentaire assez sévères pendant plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, j'accompagne vraiment les femmes autour de ces problématiques-là. Donc ça peut être de la personne qui grignote un petit peu souvent et qui a l'impression de ne pas savoir gérer ses émotions autrement, jusqu'à la personne qui est complètement hyperphagique et qui a des vrais troubles du comportement alimentaire. Et évidemment, il y a un vrai morceau émotionnel dans cette catégorie de personnes-là.
J'ai l'impression qu'on est tellement de femmes à souffrir de ces choses-là. Parce que c'est en lien direct finalement aussi avec notre corps. C'est quelque chose sur lequel on peut avoir un certain contrôle. Donc, si on peut avoir un certain contrôle, on va se le prendre pleinement. Toi, tu vois qu'il y a un vrai lien entre le corps et cette relation de la nourriture.
Oui, complètement. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, j'accompagne seulement les femmes parce qu'il y a tellement de choses à faire avec les femmes, évidemment sur le point hormonal, mais je dirais que 50% de mes clientes ont un rapport à l'alimentation très compliqué. Et d'ailleurs, je leur demande toujours, c'est quoi ton rapport avec l'alimentation? Et en fait, ce que je remarque beaucoup, ce sont des femmes qui soit ont été au régime pendant des années, donc finalement, elles ont un rapport au corps très, très compliqué, et donc finalement, un rapport à l'alimentation très compliqué aussi. Ou alors, ce sont des personnes qui ont été malades, qui sont malades, qui ont des ballonnements, donc qui peuvent être liées plutôt à des problématiques émotionnelles comme le stress, et qui, pareil, du coup, ont une peur vraiment bleue de manger. Donc, le rapport au corps, il est évidemment important. Et c'est pour ça, je pense, aujourd'hui qu'on voit beaucoup plus de problématiques chez les femmes que chez les hommes. Même si, attention, hein, chez les hommes aussi, on en voit de plus en plus. Mais c'est vrai que dès qu'on est adolescente ou en puberté, on commence à voilà, avoir des formes. Et puis, on a souvent des réflexions par rapport à nos poids, à notre corps, à la façon ou le reflet qu'on a dans le miroir. Et donc, on se met au régime assez tôt. Donc en fait, on a vraiment construit une génération de femmes complexées, mal dans leur corps et avec un rapport à l'alimentation complètement très compliqué. Et tu vois, ce que je vois souvent aussi, c'est cette envie finalement d'avoir une alimentation qui est plus raisonnée ou en tout cas instinctive. Il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir une alimentation instinctive et elles en sont incapables, tout simplement parce que elles ont vraiment coupé ce côté instinctif, justement. Elles ne ressentent plus la faim, elles ne ressentent plus la satiété. Donc, tu vois, c'est vraiment des choses que je vois, un cas sur deux à peu près en consultation. Donc, c'est quand même assez important.
Alors justement, est-ce que revenir à ce côté instinctif, c'est une clé pour toi? Et comment est-ce qu'on fait pour revenir à ces sensations de satiété? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les premières étapes finalement pour se sortir de ces schémas-là?
Alors tout à fait, je pense que la première étape, c'est de renouer avec notre instinct animal presque, donc avec notre corps. Je pense que la plus grosse partie, c'est de savoir s'observer. Donc c'est finalement de prendre des notes sur comment je me sens. Par exemple, moi, je fais toujours un exercice en consultation, souvent quand je vois que ce sont des femmes qui finalement sont très instinctives, mais qui ont coupé justement cet instinct animal ou primaire. En gros, je leur fais faire un exercice qui s'appelle l'exercice du check-up. Donc, tous les matins, quand tu te réveilles, de te poser trois questions. Première question, comment je me sens aujourd'hui? Donc ça, c'est une très bonne question pour faire l'état émotionnel énergétique de la journée. Si tu te réveilles épuisé, je me sens épuisé. C'est pas une journée où tu vas appeler ta meilleure amie qui est dépressive. C'est pas une journée où tu vas aller courir 10 km. Et c'est surtout pas une journée où tu vas te priver au niveau alimentation. Tu vois? Donc ça, c'est une première chose. Savoir s'écouter. Comment je vais? Comment je me sens émotionnellement, énergétiquement? Deuxième petite question. Qu'est-ce que je ressens physiquement? Donc, chez toi, par exemple, Anouk, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en colère? Ou qu'est-ce que tu ressens quand tu es triste, quand tu es fatiguée? Parce que ça, on l'a oublié souvent. Je le vois beaucoup en consultation des femmes. Dès qu'elles sont fatiguées, elles boivent un café. OK. Donc finalement, elles ne ressentent plus la fatigue, elles ressentent l'épuisement. Dès qu'elles ont faim, elles ne mangent pas parce qu'elles sont au régime. Donc en fait, tout ça, c'est mettre de côté ton instinct. Donc reconnaître un peu physiquement ce que tu ressens, ça permet vraiment de reconnecter le corps et l'esprit, on va dire. Troisième petite question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir mieux? Ça, c'est vraiment de l'écoute active. Donc là, tu dis vraiment à ton corps, regarde, non seulement j'ai identifié que j'étais fatiguée, mais en plus, je vais passer à l'action plutôt que d'aller forcer, comme d'habitude. Et déjà, en faisant ça, tu vas commencer à retrouver des sensations. Ça met du temps. Chez certaines femmes, ça met du temps. Hein. Mais c'est une très bonne manière déjà de s'observer déjà et comprendre comment je fonctionne.
C'est super intéressant. Merci pour ces partages de tips. Et je me rends compte aussi que, enfin, je parle pour moi, mais je vais avoir tendance à tellement, en fait, être dans une démarche soit de privation, soit de punition avec moi-même, dans le sens où, ah, je ressens ça, je devrais pas sentir ça, donc au lieu de me donner ce dont mon corps a besoin, je vais punir, en fait, la sensation de manière quasi inconsciente.
On a ces schémas, je pense, dans notre société, on nous apprend à pas ressentir. Donc, plutôt que de ressentir, je préfère mettre de côté. Et donc, on fait tout ça, hein, ou tous d'ailleurs. Comme je te disais, voilà, je suis fatiguée, oui, mais je dois aller au sport. Je me suis promis que j'allais au sport. OK, donc ça veut dire que je mets encore de côté la sensation. J'ai plus faim, oui, mais j'ai envie de chocolat. J'ai faim, oui, mais je suis au régime. En fait, c'est vraiment, on est en constance contradiction. Et Moi, je trouve que il y a un outil qu'on exploite peu, nous, en tant que femmes ou en tant qu'êtres humains, c'est le corps. Le corps, il nous envoie les messages avant qu'on prenne conscience que la situation est importante. Et si tu commences vraiment à essayer d'écouter ton corps, donc par exemple, on le fait très bien au yoga. Toi, tu le sais, je pense que tu le fais naturellement quand tu commences un cours de yoga, de checker un peu comment tu te sens. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je me sens... Comment je me sens? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens en énergie? Et en fait, dans notre train-train, on va dire quotidien, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout, alors que le corps, il envoie les alertes.
Est-ce que dans cette écoute, parce que j'aime bien cette dernière question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir mieux? Dans le sens où, parfois, si j'écoute d'une certaine façon, je peux rester sur mon canapé à manger du chocolat toute la journée, à regarder Netflix, et ça serait OK, mais est-ce que vraiment, voilà, ça va me faire me sentir mieux? Pas sûr. Alors que là, on a vraiment cette question qui nous permet d'engager quelque chose de vraiment de bénéfique pour soi.
Tout à fait. En fait, rester dans ton canapé à manger du chocolat et pourquoi pas, peut-être de temps en temps, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? C'est trouver aujourd'hui des leviers d'action. Et donc ça, c'est ce qu'on voit souvent en consultation. Quels sont tes leviers d'action pour que tu te sentes mieux? Par exemple, si tu te sens triste, peut-être qu'une balade peut te faire du bien. Donc, de t'engager vraiment, de faire cette promesse avec toi-même, de te dire, aujourd'hui, je vais prendre 10 minutes, 15 minutes pour aller marcher. Et trouver, en tout cas, voilà, dans mon mode de vie, dans mon quotidien, des choses qui augmentent mon niveau d'énergie. C'est ça. C'est vraiment quand mes ressources sont basses, quand mon état émotionnel est bas ou mauvais. Et nous, les femmes, on est très sensibles à ça, puisqu'on est des vagues cycliques. Notamment liées à nos hormones. Donc, on a des périodes où on se sent extrêmement puissante, extrêmement confiante. Et puis, le lendemain, on peut se retrouver à pleurer dans notre lit ou à se sentir vraiment horrible. On perd confiance en nous. Donc, dans ces moments-là où on a cette sensibilité hormonale, où on est dans une phase émotionnelle assez intense, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller mieux? Et clairement, je ne pense pas qu'être dans mon canapé à manger du chocolat et regarder Netflix, en tout cas, ce n'est pas forcément tout le temps la bonne chose à faire. Ça l'est de temps en temps, hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, trouver d'autres leviers d'action. Marcher, appeler une copine, faire une séance de sport, voilà.
En tout cas, ce qui est génial dans ton approche et que je voulais mettre en lumière aussi, c'est que c'est très individuel, c'est très tourné vers la personne et ça lui permet de s'orienter vers son intériorité. Plus que toi qui viens donner voilà, une espèce de recette miracle, ça vient la reconnecter avec elle-même. Et ça, je trouve que c'est une approche qui manque beaucoup chez voilà, certaines diététiciennes ou qui occupent peut-être d'autres fonctions. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment touchée, cette approche. Alors là, on a parlé un petit peu de comment tu travailles finalement. Est-ce que tu peux aussi aujourd'hui nous orienter vers une alimentation plus saine? Ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a tellement de choses, parfois on est tellement un petit peu largué sur comment faire en fait, à quoi ça ressemble un bon petit déjeuner, à quoi ça ressemble un bon lunch, un bon dîner. Est-ce que tu peux nous guider dans une journée d'alimentation saine et j'ai envie de dire aussi peut-être avec le mindset qui irait de quelque chose de bienveillant?
Alors déjà, merci pour le petit commentaire sur mon approche parce que je suis trop contente que ça se voit et que ça se transmet. Parce qu'Instagram, c'est pas facile aussi de transmettre ton univers, mais je trouve que ce que tu disais au début par rapport à l'individualisation, c'est la responsabilisation. Et ça, je trouve que c'est important, surtout dans l'alimentation. Ne vous faites pas avoir à suivre des programmes alimentaires parce que ça vous enlève. Et croyez-moi, déjà, les femmes, on nous enlève beaucoup de choses. On nous enlève notre responsabilité dans beaucoup de choses, dans la grossesse, dans notre santé. Donc, si en plus notre alimentation, on suit seulement un programme sans réfléchir, je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc, dans cette démarche d'aller mieux, de se sentir mieux, de reprendre le contrôle de votre corps, la première chose à faire, c'est reprendre le contrôle de son alimentation. Et du coup, ça passe par me responsabiliser. Ce que j'ingère, c'est mon problème, c'est mes choix. Je mets de la conscience. Et du coup, ça en vient à ta deuxième question de qu'est-ce que je peux manger, on va dire, pour avoir une alimentation saine. Alors, moi, je dis la première étape d'une alimentation qui te correspond, c'est une alimentation en conscience. Je mets de la conscience dans ce que je fais. Parce que ce que je vois souvent, c'est une alimentation que je mange un peu, je mange à peu près tout le temps la même chose. Donc, c'est souvent des personnes qui voilà, qui se lèvent le matin, qui avalent un truc, un café à jeun. Ensuite, elles vont au bureau, elles commandent toujours la même salade avec toujours les mêmes choses et les mêmes ingrédients dedans, sans mettre vraiment de conscience. Elles en sont déjà au quatrième café. Et puis le soir, elles commandent un truc vite fait sur Uber ou alors une petite soupe avec un morceau de pain. Et en fait, à la fin de la journée, oui, je me suis concentrée sur tout le reste, sauf sur ce que j'ai ingurgité. Donc, je ne sais même plus ce que j'ai ingurgité. J'ai peut-être pris 5 cafés. J'ai mangé de manière complètement, enfin, en tout cas sans conscience, en regardant mes mails, en parlant à mon collègue, en appelant mon mec. Voilà. Donc, remettre de la conscience, c'est déjà un super point. Donc, remettre de la conscience, c'est quoi? C'est faire des choix. Quel produit j'utilise? Quel produit je vais consommer aujourd'hui? De savoir, de choisir et d'essayer de cuisiner aussi. Ça, c'est une très bonne chose. Commencer à cuisiner, faire des choix en se disant, bah, tiens, ça, c'est pas mal. J'ai besoin de faire en ce moment. Bon, bah, je vais faire ce choix-là. Je sens que je suis un peu fatiguée. Bah, je vais mettre un petit peu plus de protéines, etc. Alors, ensuite, une alimentation santé. Moi, j'aime bien l'appeler l'alimentation santé parce que du coup, ça diffère complètement de l'alimentation minceur qu'on connaît. L'alimentation santé, elle est nutritive. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est vraiment de remplir vos assiettes de bons nutriments. Donc, de protéines, donc les protéines végétales ou animales, selon votre régime alimentaire. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les femmes. On est beaucoup, beaucoup de carences protéiques qui amènent beaucoup de problématiques derrière, et notamment des problématiques de grignotage. Si tu ne manges pas assez de protéines, tu vas sûrement te retrouver à manger à 18h à grignoter des chips ou des petits biscuits. Donc, beaucoup de protéines, ou en tout cas à tous les repas, des bons légumes bio de saison. Pareil, l'idée, c'est encore une fois de mettre de la conscience, d'essayer de manger de saison. Ça, c'est important parce qu'on limite les pesticides. De mettre des couleurs aussi, d'essayer de varier. Pas tout le temps manger des salades. Voilà, d'essayer d'avoir des légumes cuits, d'avoir des légumes chauds, d'avoir du froid, du chaud, du orange, du vert. Enfin, c'est voilà, de la variété. Des glucides. Donc ça, c'est vraiment tous les féculents. Pareil, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup des femmes qui ont été au régime pendant longtemps. Elles ont peur des glucides. Donc, elles ne mangent plus du tout. Elles ne mangent plus de pain, plus de riz, plus de pommes de terre. Alors que bon, bah, les glucides, on en a besoin pour l'équilibre cognitif. On en a besoin pour notre système immunitaire, pour notre énergie. Enfin, voilà. Et puis, ne pas avoir peur du gras aussi. Ça, je le vois beaucoup. Mettre du bon gras, des huiles de coco, du ghee, du beurre, de l'avocat. Enfin, voilà. Donc, tu vois, Anouk, une alimentation santé, c'est vrai, c'est une alimentation nutritive, avec beaucoup de choses dans l'assiette. Si possible aussi de manger, donc s'autoriser à manger de manière inconditionnelle. C'est-à-dire ne surtout pas mettre de restrictions dans votre alimentation. Et une manière de le faire, parce que parfois on a envie de couper le gluten, parfois on a envie de couper les produits laitiers pour résoudre des problématiques, ce qui peut être complètement OK. Si vous le faites, essayez d'être toujours dans l'ajout d'aliments. Ça, c'est une très bonne astuce. Plutôt que de vous restreindre et de dire à votre cerveau, regarde, je coupe le produit laitier, je coupe le gluten, et du coup, votre cerveau qui est déjà surchargé d'informations va se sentir encore une fois oppressé, et du coup, potentiellement, vous allez créer derrière des compulsions. Eh bien, de dire à votre cerveau, regarde, je suis dans l'ajout d'aliments, je suis dans l'abondance alimentaire. Donc, vous ajoutez des protéines, vous ajoutez des légumes, vous faites entrée, plat, dessert. Ça, c'est une super manière de dire au cerveau, regarde, il n'y a aucune restriction. Une entrée avec des crudités, par exemple, un plat et un petit dessert, une compote, enfin peu importe ce que vous aimez. Voilà. Donc, d'être toujours dans l'ajout d'aliments. Et alors déjà, je pense qu'une journée où tu as autant de nutriments, tu as autant de bienveillance, tu as un peu de conscience, déjà, je peux t'assurer que tu vas voir ton énergie, ta vitalité augmenter et potentiellement tes problématiques diminuer.
Super, merci beaucoup. Et encore une fois, je tiens à mettre en lumière ce côté, finalement, sortir de nos peurs. Sortir de « j'ai peur des glucides parce que il y a eu tellement de marketing et puis j'ai tellement peur de prendre du poids » ou « j'ai peur du gras ». Donc, de sortir de ces conditionnements-là pour aller vers une alimentation, que tu l'as dit, qui est abondante, qui est colorée, qui est nutritive. Finalement, c'est vraiment faire ce changement. Et alors, je pense à une femme qui commencerait sur ce chemin, qui serait remplie de peur et qui saurait pas très bien s'orienter. Comment est-ce que tu lui conseilles de faire ce changement d'habitude, finalement? Parce que c'est du changement d'habitude, hein, de ce que je comprends. Comment est-ce que toi, tu orientes les femmes vers ça?
Alors, déjà, se faire accompagner, je pense que si vous êtes vraiment débutante, on va dire, dans l'alimentation santé, vous vous sentez complètement perdu, faites-vous accompagner. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est commencer petit à petit. Alors ça, c'est très, très important, puisqu'on a quand même tendance, la team perfectionniste en tout cas, surtout les femmes, je le vois beaucoup, c'est faire tout ou rien. Donc, je passe de rien du tout, je commande sur Uber, je mange des salades tous les jours et je connais rien à l'alimentation, ah, je veux un mode de vie parfait. Non. Il y a un entre-deux, il y a des étapes à franchir où vraiment y aller petit à petit et vous lancer des petits challenges, par exemple, par semaine. Moi, il y a un challenge que j'adore faire, c'est quand vous êtes en train de faire les courses, d'acheter un ingrédient que vous n'achetez pas d'habitude. Un légume, par exemple, ou un légume lacto-fermenté, enfin quelque chose qui sort complètement de vos habitudes et puis d'essayer de le cuisiner. Ça, c'est une bonne chose. Et le troisième conseil que je pourrais donner, que j'ai déjà donné, mais qui est de cuisiner, tout simplement. Je pense sincèrement qu'une personne qui ne cuisine pas ne peut pas contrôler son alimentation. Et je pense que la première chose à faire, c'est tout simplement de revenir à l'essentiel. OK, bon, bah alors cuisiner le soir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon assiette? Donc voilà, c'est de se remettre aussi un petit peu au fourneau, de faire des choix sur ce qu'on veut acheter et puis d'y aller vraiment petit pas par petit pas. Pas essayer d'avoir l'alimentation parfaite. Ça ne sert à rien et personne n'a une alimentation parfaite.
Ouais, super important de, en fait, rétablir ce lien qu'on a avec la nourriture, prendre du plaisir et c'est une vraie découverte. Moi, je suis pas une pro en cuisine, j'avoue, mais j'applique ce que tu dis déjà de trouver des nouveaux légumes. Parfois, je me dis, tiens, ça, je connais pas, j'y vais et c'est vrai que c'est assez fun.
Ouais, c'est assez fun, les ingrédients. Mais tu vois, je pense qu'on n'a pas besoin d'être une grande cuisinière. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir accès à énormément d'informations, des recettes de cuisine, il y en a partout. Donc déjà, se dire par exemple, une fois par semaine, j'essaye une nouvelle recette. Ça peut être le week-end, le dimanche, de se dire, allez, je me lance un défi et j'essaye une recette. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin d'un mois, déjà, tu as 4 nouvelles recettes. Donc à la fin de 3 mois, t'en as 12, tu vois. Et au fur et à mesure, tu remplis ta base de données de recettes, des choses assez faciles à faire. Voilà, moi, je ne suis pas du tout une grande cuisinière, mais c'est vrai que reprendre le contrôle de mon corps, c'est passé par la cuisine, c'est passé par... quand j'étais malade, j'ai dû un moment faire l'étape de... En fait, Marie, je ne peux pas manger des carottes râpées et des œufs pas cuits toute ma vie. Non, je suis obligée de mettre la conscience, de mettre d'autres aliments, de mettre des choses qui vont me faire du bien, etc. Donc, c'est passé par me remettre à cuisiner.
Des œufs pas cuits, Marie?
Des œufs à peine, tu sais, des œufs brouillés vite fait. Je mangeais que ça, carottes râpées et des œufs. Donc, beaucoup de carences. Donc ça passe évidemment par un gros travail aussi derrière de « Ok, bon bah, je sais que j'ai besoin d'autre chose que des légumes. » Et moi, chez moi, c'était beaucoup de... J'avais un gros manque de glucides et de lipides. Mais c'est quelque chose que je vois très couramment chez les femmes aussi. Hein. Les femmes qui mangent beaucoup de crudités, voilà.
Ouais, complètement. Je pense que je me retrouve un petit peu là-dedans aussi. Et j'entends aussi le fait d'utiliser la nourriture pour prendre soin de soi. Vraiment, et je pense que c'est quelque chose aussi chez les femmes qu'on a tendance à faire, c'est ben, s'oublier, se faire passer un peu derrière tout au lieu de prendre soin de soi et de sa santé. Donc, merci pour tous ces partages. En termes, donc là, tu nous as parlé d'alimentation santé. En termes d'exercice physique, quelles sont tes recommandations? Et est-ce que peut-être tu peux aussi nous guider dans une journée type ou une semaine type, ça ressemble à quoi d'avoir ce mode de vie sain et aussi avec l'exercice physique?
Alors l'exercice physique, c'est un sujet intéressant aussi parce que chez les femmes, je trouve qu'il est assez mal exploité aussi. Ce que je vois beaucoup, ce sont des femmes qui soit s'entraînent à outrance, donc vraiment presque comme des sportifs de haut niveau qui vont tous les jours à la salle. Souvent, elles font du crossfit, de la fitness, de la musculation ou de la course à pied. Ça, souvent, c'est des profils que je vois. Ou alors des personnes qui ne font pas de sport du tout, ou alors très peu. Donc, je pense qu'une bonne activité physique, c'est une activité physique qui est déjà adaptée à moi, à mon énergie, à mon cycle menstruel. Ça, c'est une activité physique qui va me permettre d'avoir de l'énergie, de pouvoir mieux gérer mon stress, etc. Et c'est aussi une activité physique qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Donc, encore une fois, si je vais à la salle et que ça ne me donne aucun plaisir, potentiellement, je ne suis pas dans une activité physique adaptée. Il faut quand même ressentir du bien-être, du plaisir, de l'amusement. Donc voilà, pourquoi pas se diriger vers des sports d'équipe ou alors des sports dans la nature, passer du temps dans la nature. En termes de journée, alors là, c'est compliqué parce que ça dépend évidemment de chacune et de nos, premièrement, de nos emplois du temps, mais deuxièmement aussi de comment on se sent. On a toutes des chronotypes différents. Moi, par exemple, je suis du matin, donc potentiellement, je vais faire le sport. Pour moi, ça va être le matin ou rien, mais tu as beaucoup de personnes qui vont être beaucoup plus du soir. Mais donc déjà, savoir voilà, vraiment où est-ce que votre énergie se situe et aller au sport quand votre énergie, en tout cas, elle est optimale. Donc, je m'explique, tous les sports type cardio, musculation, crossfit, donc des sports qui sont plus énergie masculine, je conseille de les faire plutôt en période après les règles, donc vraiment la période avant l'ovulation jusqu'à l'ovulation et avec une énergie plutôt haute. Pourquoi ? Parce que si notre corps est stressé, si notre corps est fatigué et qu'en plus on amène une activité physique qui va être stressante, très stimulante, très cardio, potentiellement le corps peut créer de l'inflammation, peut créer des problématiques de santé derrière. Donc tu vois, c'est vraiment important d'adapter. Il y a des sports beaucoup plus doux, que j'appelle des sports en plus énergie féminine, comme le yoga, le pilates, la marche, la natation. Ces sports-là, c'est des sports que vous pouvez faire tout au long du mois. Et potentiellement, quand vous êtes en période prémenstruelle ou quand vous êtes avec vos règles, vous pouvez complètement faire ce genre de sport ou d'activité physique qui est beaucoup plus doux, qui respecte beaucoup plus la santé du corps, etc. Donc, tu vois, ça dépend vraiment de où est-ce que tu en es dans ton cycle, comment est ton énergie. Essayez aussi de vous faire plaisir. Tu vois, moi, je sais que il y a des activités physiques qui me rendent complètement vide. J'appelle ça un peu l'état coquille d'œuf. Par exemple, le surf. Je trouve que le surf, c'est un sport qui vraiment te vide complètement, qui te met dans un état presque de méditatif parce que c'est un sport que tu pratiques dans la nature. Et donc, si vous avez l'occasion de faire une activité physique dans la nature, et ça peut être des balades, ça peut être de la natation, des choses qui sont directement en contact avec votre environnement. Ça, c'est une super manière aussi d'avoir une activité physique adaptée qui nous fait du bien.
À peu près combien de fois, tu penses, dans une semaine, il faudrait comme ça avoir cette activité physique, même si je sais que tu t'as dit que c'est aussi par rapport à notre cycle, parce qu'il y a une moyenne, disons.
C'est compliqué à dire si qu'il y a une moyenne, c'est compliqué de donner des chiffres. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, on est une génération de faux sportifs. C'est-à-dire qu'en fait, on passe 8 à 9 heures assis ou allongés par jour, donc même plus, hein, mais en tout cas, 8 heures, c'est sûr, assis derrière nos bureaux. Et donc, même si on est sportif, voilà, même si on va courir 4 fois par semaine, on reste sédentaire. Donc, moi, j'appelle ça les sédentaires sportifs. Donc, en fait, une vraie activité physique, c'est du mouvement au quotidien, constamment. Que je sois en période folliculaire, en période lutéale, en période menstruelle. Il faut du mouvement. Maintenant, il faut du mouvement adapté. Il y a des moments où j'ai besoin, et je peux, et j'ai la capacité physique d'aller courir, de me dépenser, de faire des choses cardio. Il y a des périodes où j'ai juste la force d'aller marcher, et c'est OK. Mais il faut aller marcher, par contre. Ça, c'est important. Donc, pour moi, c'est tous les jours. C'est une activité physique tous les jours, et surtout si vous êtes sédentaire, comme la plupart des métiers aujourd'hui.
Oui, donc sédentaire, tu veux dire assis sur une chaise en train de bosser derrière un ordi et donc te remettre dans le quotidien ces petits mouvements de un peu basique, mais prendre l'escalier au-dessus de l'ascenseur, d'aller chercher le pain à pied ou en vélo, de faire ces activités-là.
C'est ça, tout à fait. Si tu te réveilles, tu passes de ton lit à ta voiture, de ta voiture à ton bureau, de ton bureau au métro. Enfin, on est dans des schémas comme ça, donc c'est important d'ajouter de l'activité physique à faible impact tous les jours. Donc, tu vois, par exemple, moi, je marche constamment. Tous les jours, j'essaie de marcher et je me force vraiment à prendre des pauses entre mes consultations et d'aller marcher même 15 minutes juste pour rajouter du mouvement.
OK. Trop bien.
Et puis après, voilà, derrière, d'avoir des activités physiques qui te permettent d'avoir un corps, en tout cas musclé ou en tout cas de développer une musculature. Ça, c'est important pour les femmes. Donc, le pilates, le yoga, le weightlifting, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et pourquoi pas une activité en plus, si vous avez le temps, qui soit plus une activité plaisir, type voilà, badminton, enfin peu importe.
Carrément. Ok, merci beaucoup. Dernière question un peu dans cette thématique du rapport à soi et à son corps, parce que là, on est au printemps, ça va bientôt être l'été. Voilà, il y a depuis de nombreuses années cette espèce de truc qui est de se faire un summer body.
Clairement.
À quoi ça correspond pour toi, le summer body? Quels seraient tes conseils pour les femmes qui regardent l'été approcher et qui se disent « Ah, j'ai besoin de perdre du poids ». Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quels seraient tes conseils par rapport à ça?
Le summer body, c'est quelque chose. Hein. Je sais que pendant des années, pour moi, ça a été c'était un cauchemar vraiment l'été de me dire « je vais devoir me mettre en maillot de bain ». Et je sais que ça l'est aussi pour beaucoup de femmes. Maintenant, je pense que être en bonne santé, c'est-à-dire, tu sais, mon programme s'appelle Healthy the New Sexy, mais c'est juste pour rappeler que, en fait, ce qui est sexy, ce qui est joli, c'est pas un corps mince et parfait, ou en tout cas, évidemment, ça l'est, mais je veux dire, on n'est pas toutes nées pour avoir un corps, pour faire du 36, pour faire du 34. On a toutes un poids qui nous est destiné, et malheureusement, c'est pas celui forcément dont on rêve, mais n'empêche que on peut complètement se sentir belle juste par la confiance en soi, juste par une vitalité, par le fait de se sentir en bonne santé. Et je pense que si vous vous focalisez sur autre chose que votre poids, je peux vous assurer que votre aura, votre confiance en soi, c'est ça qui va changer. Et tu vois, il y a une expression que j'adore qui dit « When you focus on shit, shit grows ». En gros, ça veut dire quand tu te focalises sur le problème, c'est le problème qui grossit. Donc, si tu te focalises sur tes 2-3 bourrelets du ventre, c'est ça qui va prendre une place monstre dans ta vie et une place monstre dans ta tête. Alors que se concentrer sur tout le reste, donc sur où est-ce que je mets ma valeur ailleurs que sur mon physique, peut-être dans mon boulot, dans le sport, dans mes amis, peut-être à quel point j'arrive aussi à reprendre confiance en moi, voilà, quel aura je dégage. Tout ça, c'est, je pense, beaucoup plus important que à quoi je vais ressembler dans mon maillot de bain. Et je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, mais il y a tellement de personnes qui physiquement ne sont pas en 36 et n'ont pas la peau parfaite, mais par contre qui dégagent quelque chose et tu te dis, waouh, putain, cette personne, elle a du charme, elle est géniale, j'ai envie d'être son amie. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. Et je ne suis pas du tout pour le summer body. Je pense que c'est un concept marketing qui est horrible et qui est complexe et qui est culpabilisant. Par contre, je pense qu'on a le droit de vouloir reprendre le contrôle de son corps, que ce soit avant l'été, après l'été, peu importe. On a le droit de vouloir se sentir bien dans son corps. Mais pour se sentir bien dans son corps, je peux vous assurer que ça passe par un travail mental, ça passe par un changement de croyance, un changement d'état d'esprit. Et voilà, par un changement de mindset. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est vraiment ça.
Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour le petit partage personnel, pendant un moment donné, dans ma vingtaine, j'avais vraiment, vraiment envie de perdre du poids pour avoir ce corps parfait. Et j'ai fait des jeûnes à répétition. Et j'étais dans le milieu du yoga déjà à ce moment-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le milieu du yoga qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, ben, certes, j'avais un corps, entre guillemets, très beau aux yeux de la société, mais à l'intérieur de moi, j'étais anéantie. Et en fait, j'avais aucune confiance en moi. Et je regarde les photos aujourd'hui de cette fille et je me dis, mais oh, qu'est-ce que j'étais mal et malheureuse. Et aujourd'hui, je me dis, oui, bon, là... Selon mon idéal dans ma tête, j'ai quelques kilos en trop et parfois je me regarde et je suis là genre non. Mais en fait, je me dis bon bah tout le reste marche et ça va aller. Et parfois dans la vie, ben on prend un petit peu de poids et on en perd. Et parfois, enfin c'est comme ça, c'est la vie. Parfois on a plus d'argent, parfois on en a moins, parfois on est célibataire, parfois on est en couple. Genre c'est des aléas. Et à quel point est-ce qu'on va se figer dans un truc et essayer de se dire ah, il faudrait pas que ce soit comme ça, au lieu de finalement juste kind of let go and move on. Je pense que c'est un bon truc à rappeler.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de dire à une femme « lâche prise sur ton poids ». Mais pourtant, c'est le seul moyen aujourd'hui de vraiment d'assainir votre rapport à l'alimentation et votre rapport au corps, c'est de trouver d'autres leviers d'action, d'autres choses autour dans votre vie et ne pas justement pas se focaliser sur votre physique et votre poids. Et je sais que ça a l'air facile à dire, et d'ailleurs moi je n'utilise jamais le mot lâcher prise, parce que je trouve que c'est aujourd'hui qui lâche prise, enfin je pense que c'est très compliqué. Par contre, j'utilise le mot saut dans le vide, parce qu'en fait c'est un vrai saut dans le vide pour le coup. C'est-à-dire que tu te dis, bon ok, je vais me faire confiance, je vais faire confiance en mon corps, et je vais sauter dans le vide. Et c'est-à-dire sauter dans le vide, c'est je vais arrêter de compter, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre ce sujet-là de côté, et dès que ça va revenir, je vais juste penser à autre chose, je vais me développer dans d'autres parties de ma vie que mon physique ou mon poids, et voir ce que ça donne. Mais c'est un vrai saut dans le vide. C'est-à-dire que tu ne peux pas continuer à vouloir être mince et à vouloir contrôler et penser que tu lâches prise. C'est pas possible. On ne lâche pas prise dans le contrôle. Donc c'est un saut dans le vide. Et vraiment, quand tu commences à guérir cette peur de grossir, c'est dingue l'énergie que tu peux développer dans d'autres projets, dans d'autres choses, quoi. Et le corps, il le sent aussi. Et le corps, il le sent. Le moment où tu lâches prise, c'est là, d'un coup, tu commences à finalement perdre du poids, ou en tout cas te sentir mieux, parce qu'en fait, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke ses émotions de culpabilité, de tristesse, de colère. Il est obligé de les mettre quelque part, donc finalement, il les stocke. Et donc, c'est une bonne manière, le moment où tu lâches prise, où tu sautes dans le vide, alors ça prend un peu de temps, mais le corps finalement se remet à s'équilibrer. Il s'équilibre. Et encore une fois, et je vous le dis hein, aux femmes qui nous écoutent, c'est vraiment de se dire, vous ne pourrez pas perdre du poids dans un corps qui est surmené, malmené, dans un corps qui est stressé. Donc, ça passe par de l'apaisement. Et l'apaisement, ça passe aussi par, en tout cas, faire face à mes peurs. Et souvent, c'est la peur de grossir. Et d'ailleurs, se demander aussi, la peur de grossir, elle cache quoi? C'est quoi derrière? Moi, je me suis posé la question il y a quelques années, parce que, donc moi, je faisais 10 kilos de plus, et j'étais très mal dans ma peau, et j'ai décidé de sauter dans le vide, comme je te dis. Et c'était un moment très compliqué parce que je me disais, je vais devoir m'accepter comme ça. Alors évidemment, pour certaines personnes, j'étais pas du tout ronde, mais dans ma tête, j'étais horrible, voilà. Donc j'ai sauté dans le vide et je me suis dit, la première question que je me suis posée, c'est de quoi t'as peur en fait? Si tu restes comme ça, si tu grossis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la peur derrière? Et en fait, tu réalises que la peur, c'est pas vraiment la peur de grossir, c'est la peur de pas être aimée. C'est la peur de ne pas être accepté, c'est la peur d'être rejeté. Donc en fait, c'est ça qu'il faut travailler en fait. C'est pas ce qui est en surface, c'est le derrière, tu vois.
Ouais, complètement, ça m'a mis des frissons. Et ouais, c'est clair que c'est cette peur derrière de ne pas être aimé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, c'est super inspirant.
Avec plaisir.
Alors, ça ressemble à quoi aujourd'hui, si tu veux bien nous partager une journée dans la vie de Marie, là, aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as.
30 ans.
30 ans, ok. Ça ressemble à quoi, une journée dans la vie de Marie de 30 ans? Si tu peux nous écrire depuis le lever, s'il y a une routine jusqu'au soir pour nous inspirer, pour les femmes qui ne savent même pas trop à quoi ça ressemble, un peu un mode de vie sain.
Bon, déjà, moi, il faut savoir que j'ai une vie un peu entrecoupée, puisque... Étant entrepreneuse et je voyage beaucoup, donc je fais beaucoup d'allers-retours. Mais disons que la plupart du temps, je passe mon temps en Espagne, donc je vis à Barcelone. Je me réveille assez tôt, donc moi je me réveille vers 6h30, 7h. Pas du tout par choix, c'est vraiment à force, je me suis rendu compte que j'étais du matin. Donc je me lève vers 7h du matin. Souvent, je vais marcher directement. Donc, prendre la lumière du jour, ça, c'est super important pour équilibrer son rythme circadien, équilibrer ses hormones. Donc, souvent, je vais marcher 10-15 minutes. Soit je me prends un petit match à emporter, soit je rentre chez moi. Et là, première étape pour moi, c'est un bon petit déjeuner. Donc, ça, je le répète beaucoup sur les réseaux, mais je mange protéiné le matin, salé. Donc, souvent des œufs avec un peu de pain, avec un petit peu d'avocat. Voilà, donc vraiment, je me fais un bon petit déjeuner. Ensuite, bon, bah, je prends ma douche, voilà, je me prépare. J'essaie de toujours m'habiller parce que je travaille souvent de la maison ou dans des cafés, puisque je suis entrepreneuse, solopreneuse. Donc, je m'habille toujours, j'essaie toujours voilà, d'être présentable parce que je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'impact sur ma confiance en moi, ma journée. Et ensuite, je commence à travailler assez tôt, souvent avant 9 heures. Et comme je te disais, moi, je suis très productive le matin. Donc, souvent, je bosse 3-4 heures le matin donc sur différents projets. Donc, soit j'ai des consultations, soit là, je suis en train de développer un programme. Donc, soit je travaille sur mon programme, soit je travaille sur voilà, mes projets annexes. Et souvent, en fin de matinée, je me fais une grosse séance de yoga. Donc, soit je vais en studio là, ici à Barcelone, soit je me fais un flow à la maison, si possible dehors. J'ai la chance d'habiter à côté de la mer, donc souvent je vais à la plage, je me fais un petit flow d'une heure. Ensuite, je mange, je prends toujours le temps de cuisiner dans la matinée. Donc, j'ai la chance de travailler à la maison, donc c'est pas une grande cuisine. Hein. Souvent le midi, je fais des choses très vite faites, mais souvent que je pré-cuis dans la matinée et comme ça, en gros, à 13h30, 14h, je mange et c'est prêt, quoi. Et souvent l'après-midi, j'ai une après-midi un peu plus tranquille. Parce que je me suis rendu compte, encore une fois, que mon énergie était assez basse la journée, enfin, l'après-midi. Donc souvent, je fais plutôt des activités ou des tâches répétitives, des choses où je n'ai pas trop besoin de réfléchir. Ce n'est pas le moment où je vais commencer à lancer un projet. C'est plutôt le moment où je vais gérer les factures, où je vais travailler sur mon site internet, où je vais faire des posts Instagram, enfin, des choses qui me demandent un peu moins de réflexion. Et je finis toujours par ma journée par une grosse balade. Donc souvent, je le fais avec une copine ou un ami. Je marche beaucoup pour essayer justement de bouger parce que sinon, je suis restée toute la journée assise. Et le soir, alors la plupart du temps, j'essaie d'avoir 8 heures, 9 heures de sommeil. Donc je me couche vraiment tôt. C'est pas du tout un cliché, la naturopathe qui se couche tôt, mais c'est vrai. Enfin, j'ai vraiment besoin de sommeil. Donc j'essaie de me coucher à 22 heures, vraiment 22h30 max. Et une astuce que je peux vous recommander, c'est que moi, je coupe les notifications de mon téléphone à partir de 20h. Que j'ai mis un post Instagram ou non, vraiment, je m'en fiche. Je coupe mes notifications pour vraiment pouvoir avoir ma soirée pour moi et ne pas être dépendante de mes notifications d'Instagram ou de WhatsApp. Donc souvent, je lis ou ça peut m'arriver de regarder un film, de cuisiner. Voilà, ça, j'adore cuisiner, inviter des amis. Mais en tout cas, mon téléphone, il est de côté et je ne regarde pas, quoi. Et ça, j'ai vu beaucoup une grosse différence sur mon sommeil.
Ouais, c'est clair. Moi, si je vois la différence, si par exemple je regarde un film même le soir et le lendemain, je sens qu'il s'est passé un truc, enfin que j'ai passé du temps sur les écrans. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Alors, tu l'as mentionné pendant l'épisode, tu as un programme qui arrive, Health is the New Sexy. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Qu'est-ce que c'est? Pour qui c'est? Et comment est-ce qu'on peut participer?
Alors, c'est un programme qui va être lancé officiellement le 6-7 avril et qui va commencer le 1er mai. Donc, le programme s'appelle Healthy the New Sexy. Pourquoi? Parce que je pense que tu l'as compris un peu dans notre conversation, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une personne en bonne santé qui se sent bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, le programme, c'est vraiment ça. C'est 6 semaines pour apprendre à équilibrer ses hormones et se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, c'est un programme qui est exclusivement dédié aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'on va beaucoup parler de santé de la femme, de santé hormonale. L'idée, c'est vraiment de donner toutes les informations nécessaires, en tout cas, je pense, nécessaires à un mode de vie qui est pro-hormone et qui, du coup, nous fait beaucoup de bien. Donc, dans ce programme, on va parler nutrition, on va parler sommeil, on va parler activité physique, on va parler gestion émotionnelle, gestion du stress, libido, confiance en soi. Enfin, c'est vraiment un programme qui va allier tous les leviers d'action, je pense, nécessaires pour avoir une bonne santé, pour se sentir bien, mais sans trop de blabla ou de choses inutiles. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail biologique ou scientifique, mais c'est plus voilà, les grosses bases, les bases à savoir en tant que femme pour gérer sa fertilité, pour gérer sa santé, pour se sentir, pour avoir une jolie peau, pour avoir des cheveux en bonne santé, pour avoir de l'énergie, pour reprendre confiance en soi. Voilà. Donc, c'est un programme qui va durer environ 6 semaines. Il y aura des lives, mais c'est un programme que tu peux suivre complètement à ton rythme. L'idée, c'est vraiment de donner beaucoup de contenu. Et puis après, chaque femme peut prendre ce qui lui fait du bien, ce qui lui est nécessaire, suivre les lives ou pas. Mais en tout cas, on va être une grosse communauté de femmes à le faire tout en même temps. Comme ça, je vais pouvoir répondre aux questions. Je vais pouvoir vraiment être là à 100% avec ce groupe de femmes et de pouvoir les voir évoluer mentalement et physiquement aussi, quoi.
Et donc, dis-moi si j'ai bien compris, mais une fois que le programme a commencé, les portes sont fermées. Donc, il faut embarquer sur le bateau le 1er mai.
Oui, tout à fait, avant le 1er mai. Bon, j'ai pas encore, ce sera, à mon avis, les ventes se feront encore jusqu'au 5 mai, parce que comme ça, je laisse un bon mois à tout le monde pour réfléchir, parce que c'est quand même un budget. Mais on va dire que jusqu'à peu près au 5 mai, ensuite, ça se termine. Ce programme, je vais le faire plusieurs fois par an. Mais le premier batch, en tout cas, si vous voulez le faire avant l'été, ce sera vraiment jusqu'au 5 mai. Et ce que je n'ai pas dit à Anouk, c'est pardon, c'est que toutes les femmes qui ont des problématiques hormonales sont évidemment les bienvenues. Donc, l'acné, SOPK, endométriose, des femmes qui ont des problèmes pour tomber enceinte, donc des troubles de la fertilité. Voilà, vraiment, toutes les femmes avec leurs problématiques sont les bienvenues, sous pilule ou avec pilule. Voilà.
Je crois que tu as du yoga aussi dans le programme.
Oui, j'ai du yoga. Donc, c'est Arya Crescendo qui va donner les cours. Donc, il y aura 7 vidéos de yoga. On va apprendre à respirer. Et je pense que le yoga, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, ou en tout cas ma perception encore de la santé, de la spiritualité, etc. Donc, j'avais vraiment envie de partager aussi avec ces femmes qui rejoignent le programme au moins une activité physique, mentale et physique, qui permet de voir une évolution sur notre gestion du stress et aussi sur notre force physique, notre souplesse, etc.
Et les hormones, dans l'interview aujourd'hui, on n'en a pas trop parlé, mais moi, de ma grille de lecture, surtout avec voilà, les formations autour du yoga que j'ai pu faire, je sais qu'il y a eu un lien assez marqué entre nos hormones, donc là où sont situées les hormones et les chakras, et cette corrélation avec finalement les centres émotionnels. Donc c'est intéressant aussi de faire le lien, parce qu'on a plus parlé d'émotions là sur notre interview, de faire ce lien entre aussi ben, émotions et hormones. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, toi.
Mais tellement, c'est mon sujet favori, mais oui, tout à fait. Enfin, c'est pour ça que dans le programme, on va parler d'émotions et on va parler de gestion du stress. Je ne vais pas aller dans le détail de pourquoi le stress impacte nos hormones, parce que voilà, pour le coup, c'est physiologique. Mais si on parle un peu plus, si on est plus dans la spiritualité ou dans le mode de vie des yoga, on sait qu'on a 7 chakras principaux. Et ces 7 chakras-là, en tout cas, 6 d'entre eux sont liés à des centres physiques qui sont eux-mêmes liés à des centres hormonaux. Et donc, les hormones ont vraiment un lien très fort avec les émotions. Par exemple, tu vois, je pense beaucoup au chakra de la gorge qui est relié directement à la thyroïde. Donc, par exemple, dans le programme, évidemment, on va parler d'un régime, on va parler de l'alimentation hypothyroïdie, hyperthyroïdie, on va parler des compléments alimentaires, de ce qu'il faut faire. Mais on va aussi parler de qu'est-ce que je dois faire émotionnellement pour me sentir mieux avec mes symptômes d'hypothyroïdie. Et ça passe par ce chakra-là. Donc, il y a des postures de yoga qui sont intéressantes, par exemple. Et c'est pareil avec la fertilité, c'est pareil avec la digestion. C'est super intéressant. On peut travailler vraiment. Je pense même que 50% du travail, souvent, il est émotionnel. C'est ce que je fais en consultation et c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans le programme, c'est travailler sur les deux parties.
J'ai trop hâte. Ça donne très, très envie. Hein. Je pense que je vais regarder, mais il est possible que je m'inscrive.
Bah, j'espère, Anouk, j'espère. Mais oui. L'idée, c'est, voilà, c'est de fournir un outil où toutes les femmes vont pouvoir piocher et puis avoir les informations dont on a besoin. Quoi. C'est quoi la pilule? Qu'est-ce que je prends tous les jours? Comment marche mon cycle menstruel? Enfin, voilà, des choses que nous, les femmes, on a perdues. On a perdu les informations en route et on n'a plus du tout ce contrôle-là. Et puis ensuite, de se responsabiliser, de faire les choix en conscience, encore une fois, et de ne pas avoir un régime alimentaire où moi, je dis, bah, Marie, elle a dit de manger ça, donc il faut que je mange ça. Mais pourquoi? Pourquoi il faut manger ça? Pourquoi tu dois manger ça plutôt que ça? Et du coup, c'est vraiment ça de vous donner, enfin de donner vraiment les clés à ces femmes pour qu'elles reprennent le contrôle elles-mêmes, qu'elles se responsabilisent elles-mêmes. Donc, j'ai trop hâte.
On arrive à la fin de l'interview. J'ai mes dernières questions. L'une d'entre elles, c'est par rapport à la prévention. Parce que là, on a parlé ben, de nous, de notre génération, un peu de femmes complexées qui est là à l'approche de l'été en se disant « Ah, summer body, c'est parti, il faut que je mette plein de choses en place !» Parce que ben, on a grandi dans une certaine société avec des parents qui nous ont répété peut-être certaines choses. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 nièces que j'aime tellement et j'ai envie qu'elles grandissent en se sentant hyper épanouies et qu'elles ne soient pas là en train de se prendre la tête avec des régimes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes aujourd'hui, selon toi?
Oh, c'est tellement une bonne question. C'est quelque chose auquel je pense aussi beaucoup de dire, bah, parce qu'on le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec TikTok, la génération d'après, ce sont des enfants qui sont déjà extrêmement tournés finalement vers eux-mêmes et vers leur physique. Donc, c'est assez inquiétant, je trouve. Mais je pense que déjà, en tant que parent, d'essayer au maximum de ne pas faire du poids un sujet. Parce que les enfants, ils ont tous des phases différentes. Beaucoup d'entre eux prennent du poids assez naturellement parce qu'ils n'ont pas forcément leur taille définitive, parce que voilà, les enfants, bah, ils mangent un peu plus, ils ont plus d'énergie. Donc déjà, de surtout pas faire du poids un sujet, de ne pas mettre notre enfant au régime, nos enfants au régime, de ne pas leur parler de ça. Je pense que c'est déjà une très bonne manière de ne pas les complexer à vie et qui développent surtout des troubles du comportement alimentaire. En revanche, c'est pas parce qu'on leur parle pas de poids qu'il faut pas leur parler de santé, ou en tout cas de les éduquer au maximum à manger de manière la plus nutritive et spontanée possible. Donc c'est aussi quand même en tant que parent d'essayer de pas donner trop de sucre, de plutôt être dans des choses beaucoup plus naturelles, plus brutes, plus saines. Donc d'essayer voilà d'avoir un maximum de fait maison, ça c'est super important. Et puis potentiellement de rendre l'alimentation ludique. Donc d'essayer voilà de faire des petits ateliers cuisine, de vraiment rendre nos enfants conscients et intéressés par ce qu'ils mangent. Donc par exemple, une bonne manière, ça peut être d'avoir un petit potager. Moi, je sais que mon père avait un potager quand on était petite, et ça naturellement, on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à la nutrition, à ce qu'on met dans notre assiette et potentiellement à la nature. Donc c'est des bonnes manières de voilà de simplement prendre un chemin santé de manière ludique et surtout que ce soit pas lourd à la maison, que ce soit pas un sujet voilà où l'enfant se sent restreint ou contraint, et surtout qu'il se sente pas complexé par rapport à son physique, parce que c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Et je pense que moins on en fait un sujet, plus l'enfant se sentira en confiance et ça deviendra un adolescent qui aura moins de complexes, quoi.
Ouais, et je trouve aussi même sur le plan de l'image de soi, enfin moi je me souviens un jour, entrer dans la salle de bain, il y a ma petite nièce qui prenait le bain, je devais la surveiller, et puis je passe devant le miroir et je me regarde, et je sais pas ce qui se passait ce jour-là, et je regarde et en fait je fais genre, la façon dont je me regarde en fait, je me dis je suis pas belle. Et ma petite nièce me regarde, elle me dit qu'est-ce qui se passe Anouk? Et ça m'a pris un peu au trip en me disant, waouh, ma petite nièce est en train de me regarder. Moi, alors que je vais très bien, je suis en pleine santé, enfin voilà, je suis plutôt mignonne, et de me dire à moi-même, elle est en train de voir que enfin, je me dis des choses pas bienveillantes à mon sujet, et je me suis dit, j'ai pas envie qu'elle voit ça, j'ai pas envie de l'éduquer à ça. Donc je pense aussi que nous, en tant qu'adultes, même sans enfants, au final, on a cette responsabilité face à nos jeunes d'être qui on veut, d'incarner ce qu'on souhaite voir, parce qu'en fait, les jeunes miment beaucoup plus que font autre chose. Je ne sais pas s'il y a des enfants, toi, qui t'entourent.
Ben, moi, j'ai eu ma petite sœur. On a beaucoup d'écart, donc maintenant, c'est plus une enfant. Mais j'ai vu l'impact de mon anorexie et de mes troubles du comportement alimentaire sur elle. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me pardonner ça, parce que je lui ai vraiment donné l'image d'une grande sœur complexée, qui ne mangeait rien, etc. Et ça a eu un impact énorme sur elle. Donc, évidemment, en tant qu'adulte, on a une responsabilité face à ça. Et toi qui fais du yoga, qui a fait une école de yoga, etc. Moi, quand j'ai fait ma formation de yoga teacher, j'avais l'impression que c'était une école un peu de la vie. Et j'ai vraiment, j'espère un jour avoir ce genre de projet où de travailler avec des enfants et plutôt que de leur apprendre à être beau, à être dans les normes de la société, plutôt de leur apprendre à être heureux. Et alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais je trouve qu'à l'école, on devrait leur apprendre ça, d'être heureux, d'être bien dans leur peau, de focaliser autre chose que sur notre physique. Et ça, c'est vraiment important de trouver ta valeur ailleurs, de se dire que le bonheur, c'est aussi des choses simples, c'est aussi des fois être dans le silence, des fois rien faire, des fois être dans la nature. Enfin, je pense que c'est ça, c'est réussir à donner l'exemple, en tout cas en étant la personne la plus authentique possible, et surtout n'essayer de ne pas focaliser sur des mini problèmes qui pourraient, eux, les impacter derrière, quoi.
Merci beaucoup Marie pour tout ce partage de richesse. Il y a plein de choses que je me suis notées et je pense que je vais réécouter l'épisode parce que tu as fait vraiment des partages qui étaient hyper intéressants. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais partager avec ma communauté que j'ai pas mentionné, quelque chose que tu avais envie de livrer encore peut-être ?
Juste que je fais aussi des retraites. Donc je fais des retraites partout en Europe. La prochaine est dans les Landes. Donc, on va surfer, on va faire du yoga, il y aura des ateliers nutrition, naturopathie, de l'astrologie aussi. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez envie aussi de vivre l'expérience avec d'autres femmes, dans des choses encore plus émotionnelles, plus spirituelles, plus profondes, je fais aussi des retraites et je mettrai les prochaines dates sur mon Instagram. Et Anouk, je te donnerai toutes mes informations, mon site internet, tout ça pour, voilà, si vous avez des personnes, si tu as des personnes intéressées qui nous écoutent. Et puis, évidemment aussi, je fais des consultations, des accompagnements. J'accompagne uniquement les femmes. Donc, si vous avez l'impression que vous avez besoin d'un guide ou de quelque chose de supplémentaire, d'un accompagnement supplémentaire, avec grand, grand plaisir.
Tu as bien fait de le mentionner parce que il y a beaucoup de femmes, je pense, qui nous écoutent, qui ont envie de partir sur des retraites. Et je suis sûre qu'après cette interview-là, de voir qui tu es, il y aura beaucoup de femmes qui seront motivées. Merci infiniment pour tous ces partages, Marie.
Merci à toi, Anouk, c'était génial.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. J'ai vraiment adoré ma conversation avec Marie. Et puis, pour ma part, j'ai pendant longtemps eu un rapport très compliqué à mon corps et à la nourriture. D'ailleurs, au moment de l'enregistrement de l'interview avec Marie, je suis plutôt dans une phase creuse, c'est comme si tous mes schémas étaient un petit peu réveillés, alors sûrement à la vue de l'été qui arrive. Et cette conversation avec Marie m'a vraiment fait du bien, m'a apaisée et m'a fait prendre conscience que j'avais encore beaucoup de peur. Ça m'a permis vraiment de lâcher prise et de continuer à faire la paix avec la nourriture. Marie et moi, on adorait savoir ce qui vous a le plus parlé dans l'épisode. N'hésitez pas à venir nous le dire en vous rendant sur le post Instagram de l'épisode et à nous laisser un commentaire. Et puis, si le podcast vous plaît, alors ça serait fantastique si vous pouviez vous rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Merci beaucoup si vous l'avez déjà fait. Et puis, comme toutes les semaines, ma belle, laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que absolument tout est possible. Continue à croire en toi, à croire en tes rêves et en tes projets. I'm here with you, girl. Je te souhaite une très belle journée, soirée, où que tu sois. Et je te dis à la semaine prochaine.